Alors ici, il faut reconnaître qu'il y a une certaine discussion, je ne vais pas m'y attarder, mais je suis quand même obligé de la signaler. Pour paraître plus crédible, plus ouvert aux interrogations de leurs frères incroyants ou malcroyants, certains chrétiens d'aujourd'hui ont tendance à dire que toute foi authentique comporte une part de doute. À la bonne heure, peuvent dire les incroyants à la lecture de telles déclarations, voilà enfin des chrétiens qui nous ressemblent. Comme nous, ils connaissent le doute. À l'appui de cette thèse, on invoque souvent la nuit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou d'autres mystiques. Comme tous les grands mystiques, elle aurait vraiment douté à certains moments de l'existence de Dieu et de l'au-delà. La vérité historique oblige pourtant à dire que Thérèse n'a jamais dit qu'elle avait douté de l'existence du ciel. Loin de douter, elle multiplie les actes de foi. Elle écrit « Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis un an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mon ennemi vient me provoquer, je me conduis en brave. Sachant que c'est une lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mon adversaire sans daigner le regarder en face. Mais je cours vers mon Jésus. » Et elle n'a pas de difficulté à croire, c'est bizarre. Pas de difficulté à croire à Jésus ressuscité, à Jésus présent au tabernacle. Sa difficulté porte sur le ciel, sur l'au-delà. Je cours vers mon Jésus, je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Autrement dit, l'esprit envahi par les doutes, les objections, les difficultés, la nuit, Thérèse ne doute pas. Vous savez que le mot doute en français est ambigu. Il peut signifier, si vous le prenez comme substantif, la difficulté, l'objection. Il peut signifier aussi le fait de douter, l'acte de douter. Thérèse a eu des doutes, mais elle n'a pas douté. Comme disait Newman, 1000 difficultés ne font pas un doute. Une phrase de Newman rappelée par le catéchisme de l'Église catholique au chapitre de la foi. Ne confondons pas les questions qui viennent parfois troubler l'esprit du croyant au sujet d'un article de sa foi et le doute proprement dit, lequel, selon l'étymologie même du mot dubius, suppose que l'esprit hésite entre deux voies possibles, l'affirmation et la négation. Celui qui doute, l'agnostique, éminemment respectable. Celui qui doute oscille entre la foi et l'incroyance, c'est un agnostique. Celui qui croit n'hésite pas, très humblement, avec la grâce de Dieu et sur sa parole, il affirme « je crois, je suis sûr ». C'est la grâce qu'a reçue Thérèse. Thérèse a eu la chance, la grâce de ne pas douter, tout en ayant des doutes épouvantables comme ni vous ni moi n'aurons sans doute jamais. Bien mieux, Thérèse s'abandonne avec confiance entre les mains du Seigneur. Il n'a jamais déçu son attente. Il saura bien la faire vivre pour toujours auprès de lui, même si elle ne voit pas comment peut s'effectuer le mystérieux passage. Plus que jamais, la mort lui apparaît comme un saut de parachutiste, dirions-nous, qui doit la faire atterrir, comme elle dit, sur les genoux du bon Dieu. Qu'importe si le parachutiste est pris de vertige, il sait sur qui il va tomber. Il sait que Jésus le prend par la main pour lui faire faire le saut. Thérèse ne compte absolument pas sur ses propres forces pour résister aux tentations de doute. Si je disais « Oh mon Dieu, je vous aime trop pour m'arrêter à une seule pensée contre la foi », mes tentations deviendraient plus violentes et j'y succomberais certainement. Et Thérèse a ce réflexe d'offrir son épreuve pour ceux dont elle partage maintenant la nuit, les athées, les incrédules, comme elle dit. Intercession qui n'est pas abstraite, qui ne se perd pas dans le vague, car elle prie pour son cousin incroyant, René Tostin, magistrat à Lisieux, pour Hyacinthe Loison, cet ancien provincial des Carmes, marié à une protestante, fondateur d'une église qui n'accepte pas le Concile Vatican I, pour Léo Taxil, ce franc-maçon, qui a trompé l'opinion catholique pendant des années en faisant croire à sa conversion miraculeuse, pour Henri Chéron, l'ancien employé de son oncle Guérin, pharmacien, qui avait joué pour elle de l'accordéon dans l'arrière-boutique et qui était devenu anticlérical virulent, qui avait fondé un journal, le Procès Lexovien, pour s'opposer aux idées de son oncle Guérin. Cette prière pour tous ses frères, incroyants ou non, Thérèse espère bien la continuer après sa mort. Alors, vous allez voir que, une fois de plus, il faut savoir regarder attentivement les textes de Sainte Thérèse, car elle se contredit d'une phrase à l'autre. à l'intérieur même d'une même phrase. Et c'est ça qui est sympathique. Elle est d'une... Ben, plus je vais, plus j'admire ces nuances chez Thérèse. Elle n'est jamais simpliste. Donc, par exemple, je prends deux exemples dans ce fameux texte. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi. Et le lecteur un peu pressé va dire, ah, enfin, elle comprend qu'on peut être un incroyant de bonne foi. Des gens qui ne sont pas responsables de leur incroyance. La fille Cato qui découvre le monde des incroyants. Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi. Virgule. Qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor. Ah, ici, ce sont des incroyants qui sont responsables de leur incroyance. Qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Donc, comme si elle avait fait des études de théologie, elle sait très bien qu'on n'a pas à juger les incroyants, qu'il y en a qui sont incroyants sans en être responsables, et il y en a qui sont incroyants et qui sont sans doute responsables de leur incroyance, qui sont des pécheurs. Elle va le redire d'ailleurs plus tard. Et elle pense forcément à Léo Taxil, cette espèce de crapule qui avait fait ses études dans un collège catholique de Marseille, mais qui était devenu un anticlérical virulent, qui avait écœuré d'ailleurs les journalistes les plus anticléricaux de l'époque, tellement il avait menti à l'opinion pendant 10 ans. À la fin du passage, elle explique comment elle réagit et comment elle prie pour les incroyants. Et vous allez voir que là aussi, à l'intérieur d'un même paragraphe, sans aller à la ligne, elle va dire des choses diamétralement différentes. Où nous allons retrouver des choses que nous avons dites sur la communion des saints. Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères incroyants. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi, ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés. Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. » Et certains commentateurs de dire un peu rapidement, « Merveilleuse Thérèse, qui a enfin compris que les carmélites ne devaient pas se distinguer des pécheurs et s'imaginer qu'elles étaient plus justes qu'eux, elle prit solidaire avec les pécheurs, elle s'assied à leur table, et elle a enfin compris que la seule prière valable, c'est « Seigneur, ayez pitié de nous, renvoyez-nous justifiés. À la bonne heure Thérèse, tu sais que tu es pécheresse, comme les incroyants, comme les pécheurs, et tu ferais une révolution spirituelle dans l'Église en éliminant cette idée rétro, obsolète, qu'on peut prier pour les pécheurs. Non, on prie avec les pécheurs, solidaire des pécheurs. » Entre parenthèses, on n'a pas attendu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour le savoir. Ça fait des siècles que les moines et les chrétiens prient comme ça. Prie pour nous, Kyrie eleison. Seulement, à la fin de la phrase, Thérèse va dire exactement le contraire. Et quand je dis ça dans une conférence, parfois les gens disent, ah ben oui, c'est vrai, on avait oublié d'aller jusqu'au bout de la phrase. Point de suspension. Et vous allez voir l'audace de Thérèse. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux, soit purifié par une âme qui vous aime. Je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. Thérèse, quelle audace! À ta place, j'aurais été plus modeste. J'aurais dit, s'il faut que la table souillée par les pécheurs soit purifiée par le sang de l'agneau, je t'offre le sang de l'agneau. Et qu'est-ce qu'elle dit, la gamine? S'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. Autrement dit, dans un même paragraphe, Thérèse commence par dire qu'elle prie comme une petite sœur des âmes, solidaire avec eux, et ensuite, elle prie comme leur petite maman. Elle prie pour eux. Thérèse, sans avoir suivi de cours de théologie spirituelle, sait qu'il y a deux façons de se présenter devant Dieu. Tantôt, on est avec les autres, on prie avec les autres, et on dit « nous, prie pour nous, pauvres pécheurs », tantôt avec l'audace d'une princesse et d'une reine, « Seigneur, je veux obtenir le salut de ces pauvres pécheurs en t'offrant mon amour sans défaillance. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. » Et elle a le toupet de dire que la table des pécheurs va être purifiée par elle. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui auraient cette audace. Je relis la phrase. « S'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, eh bien, je suis volontaire. » Autrement dit, Thérèse, avec beaucoup d'équilibre, sans se rendre compte que tantôt on est frère et sœur des âmes, solidaire d'eux, tantôt on a le droit de continuer à penser qu'on a à gagner la vie de ses enfants. Seulement, si l'on ne sait plus lire ce texte, c'est qu'on ne veut plus voir cet aspect de l'amour mendiant du Seigneur qui réclame nos sacrifices, qui réclame notre générosité. C'est tellement, on veut toujours réduire la prière de Thérèse à une prière les mains vides. Au début du paragraphe, c'est cela, et à la fin du paragraphe, « Ô Seigneur, je vais gagner la vie de mes enfants », et elle dira jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, que Pranzini, c'est son premier enfant. C'est donc qu'elle continue à se considérer comme mère des âmes. Après Vatican II, on a le droit de continuer à penser que par notre vie, par notre générosité, on mérite la vie des pécheurs. Voilà donc la façon dont Thérèse réagit à sa terrible épreuve. Terrible épreuve. On n'insistera jamais assez sur la nuit de Thérèse. Seulement, c'est une nuit qu'elle a vécue comme Jésus, à Gethsémani. Elle a dit cela un jour sur son lit de mort. « Notre Seigneur, au jardin des Oliviers, c'est une pensée du Père de l'amener. Hein, félicité de l'amener. » Elle dit « Il a beau s'être séparé de l'Église, il dit quand même de très bonnes choses, dit Thérèse. Bon. « Notre Seigneur au jardin des Oliviers jouissait de toutes les délices de la Trinité et son agonie n'en était pas moins cruelle. C'est un mystère, mais il me semble que j'en comprends quelque chose par ce que j'éprouve moi-même. » C'est d'ailleurs assez étonnant qu'à Gethsémani, au moment où Jésus est peut-être le plus abandonné, le plus délaissé, le plus triste, le plus angoissé, c'est le moment où nous le voyons appeler Dieu « Abba, papa chéri ». Le Christ, comme dit saint Bernard, sur la croix, était le plus malheureux et le plus heureux des hommes. Et Thérèse, avec beaucoup de simplicité, dit « Il me semble que j'en comprends quelque chose par ce que j'éprouve moi-même. Je suis dans une nuit épouvantable et dans une paix pas possible. » Il ne faut jamais simplifier ni le Christ ni les saints. Ils connaissent des nuits épouvantables, mais tout au fond de leur cœur, j'aurai l'occasion d'en parler, par ailleurs, tout au fond de leur cœur, ils sont dans une paix extraordinaire. Et ils continuent à dire « Père, Abba ». Ils ne sont pas paumés du tout. Ils savent d'où ils viennent et où ils vont. Ils savent qu'ils viennent du Père et qu'ils retournent au Père.